Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.
Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec Politis, la une de l'hebdomadaire, empire médiatique, main basse sur l'opinion. Denis Siffer, bonjour.
Bonjour.
Votre édito, la gauche et la question de l'unité. Vous revenez sur la proposition de la primaire portée par Anne Hidalgo. La panique semble s'être emparée de la candidate dont les sondages ne décollent pas, écrivez-vous.
Oui, parce que c'est pas tant d'ailleurs l'appel à l'unité de la gauche qui me choque, parce que j'en suis tout à fait partisan. Je l'ai écrit il y a bien longtemps. Mais la façon dont ça s'est passé, c'est-à-dire Anne Hidalgo a toujours défendu la position inverse, y compris le matin même du jour où elle est allée sur la TF1 pour en appeler à une primaire de la gauche. Donc ça sent quand même l'improvisation et la panique, en effet, et on peut le comprendre parce que les sondages sont très mauvais. Mais bon, peut-être a-t-elle mieux à faire, peut-être tout simplement se désister. Je rejoins, parce que c'est son propos, peut-être le candidat écologiste, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, là, ça sentait quand même la panique.
Oui, vous dites que vous voyez mal Yannick Jadot se lancer dans une compétition avec deux concurrents, Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, qui risquent de l'aspirer vers le fond, alors qu'il peut encore espérer que la maire de Paris finisse par se rallier à lui.
Oui, parce qu'en fait, cette primaire, qui n'est pas une initiative d'Anne Hidalgo, d'ailleurs, hein, c'est un collectif qui a lancé ça, la primaire populaire depuis plusieurs mois, qui continue de s'activer autour de ce thème. Jadot n'y a pas intérêt pour l'instant, c'est-à-dire qu'il est quand même loin devant Hidalgo dans les sondages. Il n'est pas non plus à des sommets qui sont inaccessibles. Enfin, il n'a pas du tout intérêt à aller avec Hidalgo et Montebourg, qui sont plus bas que lui et qui vont en effet l'aspirer vers le fond. Et puis en plus, il avance l'argument qui est un peu moral, mais pourquoi pas, qu'il s'est lui-même désisté dans la présidentielle de 2017 en faveur du candidat socialiste, avec l'insuccès que l'on sait d'ailleurs. Mais enfin, il peut considérer que cette fois, la thématique écologiste ayant pris l'importance que l'on sait, c'est son tour d'être candidat. Donc, il n'a aucun intérêt à ça. Mais donc, du coup, on a l'impression quand même que l'appel d'Anne Hidalgo, c'est plutôt une tentative de chercher une issue de secours pour elle.
Et dans votre édito, vous faites état d'un petit clin d'œil de l'histoire. On ne serait pas loin de retrouver le vieux clivage issu du congrès de Tours de 1920 entre réformisme et radicalité, pour ne plus dire révolution.
Oui, parce que en fait, l'unité de la gauche, elle n'aura pas lieu, parce que depuis très longtemps déjà, Jean-Luc Mélenchon a fermé la porte. Et donc, il n'est pas question pour lui de céder maintenant. C'est lui qui quand même a les meilleurs scores dans les sondages. Donc, il n'y a plus du tout intérêt. À mon avis, il a quand même une assez lourde responsabilité, mais elle est très antérieure. Elle date probablement de 2017, quand il était en situation de jouer les rassembleurs. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a comme configuration? Ben, au mieux, on risque d'avoir deux bouts d'unité, si j'ose dire, c'est-à-dire une unité peut-être Jadot Hidalgo. Enfin, je viens de dire qu'elle était improbable, mais enfin, ça peut se jouer d'un point de vue des affinités idéologiques. Et puis de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon, on appelle toujours à Fabien Roussel, le candidat communiste, pour qu'il se rallie à lui. Donc, et pour l'instant, le communiste ne cède pas à cette demande. Mais là aussi, il y aurait des affinités idéologiques qui seraient tout à fait compréhensibles. Donc on aurait de toute façon deux bouts d'unité, et on aurait finalement le vieil antagonisme réformiste révolution, même si le mot révolution, à mon avis, est totalement dépassé à cet égard, enfin qui a cédé, disons, le schisme du congrès de Tours en 1920. Donc c'est un vrai clin d'œil de l'histoire.
Et vous l'écrivez entre guillemets d'ailleurs dans votre édito, et vous vous interrogez, mais alors pourquoi cette gauche politique plafonne-t-elle à 25% dans les sondages? La division est une réponse partielle à cette question, selon vous?
Oui, parce que évidemment, dans la situation actuelle, il y aurait tout intérêt à ce qu'il y ait un candidat unique de la gauche. En 81, par exemple, il y avait plusieurs candidats. Enfin, Mitterrand était assuré d'être au deuxième tour. On ne prenait aucun risque en ayant plusieurs candidats. La gauche était à 50% dans l'opinion. Hein. Là, c'est pas du tout le cas, comme chacun sait. Donc, il y aurait intérêt à ce qu'il y ait une union et un candidat unique, mais il y aura pas. Et il faut aussi remonter un peu plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire que cette division, elle ne vient pas de nulle part. elle vient aussi du quinquennat Hollande-Valls, ou Hollande-Hérault, mais surtout Hollande-Valls, de 2012 à 2017, hein, et avec des mesures qui ont, je pense, découragé largement, disons, l'opinion de gauche, le petit peuple de gauche, comme on dit, hein, qui est très abstentionniste maintenant. Et il faut voir quand même là, dans le contenu de cette politique de ces cinq années, la cause profonde de cette division, exactement de la crise de la gauche. Il y a une gauche qui est en crise d'un point de vue idéologique. Je vous rappelle quand même qu'en 2012, François Hollande arrive à l'Élysée. Il a tous les pouvoirs. Il a l'Élysée, donc l'Assemblée nationale, le Sénat, les socialistes ou la gauche sont majoritaires, les régions, etc. En 2017, quand ils quittent le pouvoir avec Manuel Valls, ils ont tout perdu, tout perdu. Donc il faut quand même s'interroger là-dessus. J'entends ces temps-ci Manuel Valls qui fait le tour des médias pour incriminer la gauche d'aujourd'hui, mais enfin c'est quand même un peu gonflé, disons, hein, parce que effectivement ce qui a été légué en 2017, c'est une gauche déjà vraiment en grande crise et avec beaucoup d'amertume sur ce qui a été ressenti souvent comme une trahison, je ne sais pas si le mot convient, mais enfin en tout cas comme une énorme désillusion.
Et c'est pourquoi, dans le brouillard actuel, vous entendez tout de même rendre hommage à l'équipe de la Primaire Populaire.
Oui, parce que ce collectif qui a réussi à rassembler quand même 300 000 signatures et qui va organiser une primaire populaire fin janvier, mais ça risque d'être une fiction, malheureusement, puisque si, comme je le dis un peu méchamment, on ne fait pas boire un candidat qui n'a pas soif, et ils ne forceront pas les candidats à se rallier à leur initiative. Ils peuvent toujours faire voter, mais les candidats en France, ce qu'ils voudront après, et probablement pas grand-chose. Mais en tout cas, je trouve que c'est une belle abnégation. Et de toute façon, ça a un sens, ça veut dire quelque chose, et c'est probable que ça laissera des traces positives, celles-ci, disons, dans l'opinion.
Merci, Denis Siffer.
Merci à vous.
Votre édito dans Politis, la gauche et la question de l'unité, la une de l'hebdomadaire, empire médiatique, main basse sur l'opinion.
C'était Rendez-vous avec la rédaction de Politis sur Radio Orient.